Guerre et paix. Première partie, chapitre 1, scène 15. Mon cher Boris, dit la princesse à son fils, pendant que la voiture mise à sa disposition par la comtesse Rostov quittait la rue jonchée de paille et entrait dans la grande cour de l'hôtel Bezoukhov. Mon cher Boris, répéta-t-elle en dégageant sa main de dessous son vieux manteau et en la posant sur celle de son fils avec un mouvement à la fois caressant et timide. Sois aimable, sois prudent. Il est ton parent et ton avenir dépend de lui, ne l'oublie pas. Sois gentil, comme tu sais l'être quand tu veux.
J'aurais voulu, je l'avoue, être sûr de retirer de tout cela autre chose qu'une humiliation,
répondit-il froidement.
Mais vous avez ma promesse, et je ferai cela pour vous.
Après avoir refusé de se faire annoncer, la mère et le fils entrèrent dans le vestibule vitré, orné de deux rangées de statues dans des niches. Le Suisse les examina des pieds à la tête. Ses yeux s'arrêtèrent sur le manteau râpé de la mère. Alors, il lui demanda s'ils étaient venus pour les jeunes princesses ou pour le comte. En apprenant que c'était pour ce dernier, il s'empressa de leur déclarer, en dépit des voitures qui stationnaient devant la porte et dont la présence lui donnait à démenti, que son excellence ne recevait personne, vu l'extrême gravité de son état.
« Dans ce cas, partons, »
dit Boris en français. « Mon ami, » reprit sa mère d'un ton suppliant, en lui touchant le bras, comme si cet attouchement avait le don de le calmer et de l'exciter à volonté. Boris se tut. Sa mère en profita pour s'adresser au Suisse d'un ton larmoyant. « Je sais que le comte est très mal. C'est pour cela que je suis venue. Je suis sa parente. Je ne le dérangerai pas. Je veux seulement voir le prince Basile. Je sais qu'il est ici. Va, je te prie, nous annoncer. » Le Suisse tira avec humeur le cordon de la sonnette.
« La princesse Droubetskoï se fait annoncer chez le prince Basile !»
cria-t-il à un valet de chambre qui avançait sa tête sous la voûte de l'escalier. La princesse arrangea les plis de sa robe de taffetatin en se regardant dans une grande glace de Venise encadrée dans le mur et posa hardiment sa chaussure usée sur les marches tendues d'un riche tapis. « Vous me l'avez promis, mon cher !» répéta-t-elle à son fils en l'effleurant de la main pour l'encourager. Boris la suivit tranquillement, les yeux baissés, et tous deux entrèrent dans la salle que l'on devait traverser pour arriver chez le prince Basile. Au moment où ils allaient demander leur chemin à un vieux valet de chambre qui s'était levé à leur approche, une des nombreuses portes qui donnaient dans cette pièce s'ouvrit et laissa passer le prince Basile en douillette de velours fourré et ornée d'une seule décoration, ce qui était ordinairement chez lui l'indice d'une toilette négligée. Le prince reconduisait un beau garçon aux cheveux noirs. C'était le docteur Lorrain.
« Est-ce bien certain ? Errare humanum est, mon prince ?»
répondit le docteur en grasseyant et en prononçant le latin à la française.
« C'est bien, c'est bien. »
dit le prince Basile, qui, ayant remarqué la princesse Droubetskoï et son fils, congédia le médecin en le saluant de la tête. Alors, il s'approcha d'eux en silence et les interrogea du regard. Boris vit l'expression d'une profonde douleur passer aussitôt dans les yeux de sa mère, et il en sourit à la dérobée. « Nous nous retrouvons dans de bien tristes circonstances, mon prince. Comment va le cher malade ? » dit-elle en faisant semblant de ne point remarquer le regard froid et blessant dirigé sur elle. Le prince Basile continua à les regarder en silence, elle et son fils Boris, sans chercher même à déguiser son étonnement. Sans rendre à ce dernier son salut, il répondit à la princesse par un mouvement de tête et de lèvres qui indiquait que la situation du malade était désespérée. « C'est donc vrai ? » s'écria-t-elle. « Ah, oh, c'est épouvantable ! C'est terrible à penser !»« C'est mon fils !» ajouta-t-elle. « Il tenait à vous remercier en personne. » Nouveau salut de Boris. « Soyez persuadé, mon prince, que jamais le cœur d'une mère n'oubliera ce que vous avez fait pour son fils.
Je suis heureux, chère Anna Mikhailovna, d'avoir pu vous être agréable,
dit le prince en chiffonnant son jabot. Et sa voix et son geste prirent des airs de protection tout autres qu'à Pétersbourg, à la soirée de Mademoiselle Scherer.
« Faites votre possible pour servir avec zèle et vous rendre digne de... Je suis charmé, charmé de... Êtes-vous en congé ?»
Tout cela avait été débité avec la plus parfaite indifférence.
« J'attends l'ordre du jour, Excellence, pour me rendre à ma nouvelle destination. »
répondit Boris, sans se montrer blessé de ce ton, et sans témoigner le désir de continuer la conversation. Frappé de son air tranquille et discret, le prince le regarda avec attention.
« Demeurez-vous avec votre mère ?»« Je demeure chez la comtesse Rostov, Excellence. » »«
Chez Elie Rostov, mariée à Nathalie Chinchin. » dit Anna Mikhailovna.
Je sais,
reprit le prince de sa voix monotone.
Je n'ai jamais pu comprendre Nathalie. S'être décidée à épouser cet ours mal léché, un personnage stupide, ridicule, et qui plus est, joueur, à ce qu'on dit.
Oui, mais c'est un très brave homme, mon prince, reprit la princesse en souriant, de manière à faire croire qu'elle partageait son opinion tout en défendant le pauvre comte. « Que disent les médecins ? » demanda-t-elle de nouveau en redonnant à sa figure fatiguée l'expression d'un profond chagrin.
« Il y a peu d'espoir. »
« J'aurais tant désiré pouvoir encore une fois remercier mon oncle de toutes ses bontés pour moi et pour Boris. C'est son filleul, » ajouta-t-elle avec importance, comme si cette nouvelle devait produire une impression favorable sur le prince Basile. Ce dernier se tut et fronça les sourcils. Comprenant aussitôt qu'il craignait de trouver en elle un compétiteur dangereux à la succession du comte Bezoukhov, elle s'empressa de le rassurer. « Si ce n'était ma sincère affection et mon dévouement à mon oncle !» Ces mots « mon oncle » glissaient de ses lèvres avec un mélange d'assurance et de laisser-aller. « Je connais son caractère franc et noble, mais ici, il n'y a que ses nièces auprès de lui. » « Elles sont jeunes. » Et elle continua à demi-voix en baissant la tête. « A-t-il rempli ses derniers devoirs ? Ces instants sont précieux. Il ne saurait être plus mal. Il serait donc indispensable de le préparer. Nous autres femmes, princes, » ajouta-t-elle en souriant avec douceur, « nous savons toujours faire accepter ces choses-là. Il faut absolument que je le voie, malgré tout ce qu'une telle entrevue peut avoir de pénible pour moi. Mais... je suis si habituée à souffrir. » Le prince avait compris, comme l'autre fois à la soirée de Mademoiselle Scherer, qu'il serait impossible de se débarrasser d'Anna Mikhailovna.
« Je craindrais que cette entrevue ne lui fît du mal, chère princesse. Attendons jusqu'au soir. Les médecins comptent sur une crise. »
« Attendre, mon prince? Mais ce sont ses derniers instants. Pensez qu'il y va du salut de son âme. Ils sont terribles, les devoirs d'un chrétien. » La porte qui communiquait avec les chambres intérieures s'ouvrit à ce moment, et une des princesses en sortit. Sa figure était froide et revêche, et sa taille, d'une longueur démesurée, jurait par sa disproportion avec l'ensemble de sa personne.
« Eh bien, comment est-il ? »
demanda le prince Basile. « Toujours de même, et cela ne peut être autrement, avec ce bruit. » répondit la demoiselle, en toisant Anna Mikhailovna comme une étrangère. « Ah, chère, je ne vous connaissais pas !» s'écria celle-ci avec joie en s'approchant d'elle. « Je viens d'arriver, et je suis accourue pour vous aider à soigner mon oncle. Combien vous avez dû souffrir !» ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel. La jeune princesse tourna sur ses talons et sortit sans dire un mot. Anna Mikhailovna ôta ses gants, et, s'établissant dans un fauteuil comme dans un retranchement conquis, elle engagea le prince à s'asseoir à ses côtés. « Boris, je vais aller chez le comte, chez mon oncle. Toi, mon ami, en attendant, va chez Pierre et fais-lui part de l'invitation des Rostov. Il l'invite à dîner, tu sais. Mais il n'ira pas, je crois, » dit-elle en se tournant vers le prince Basile.
« Pourquoi pas ? »
reprit celui-ci avec une mauvaise humeur visible.
« Je serais très content que vous me débarrassiez de ce jeune homme. Il s'est installé ici et le comte n'a pas demandé une seule fois à le voir. »
Il haussa les épaules et sonna. Un valet de chambre parut et fut chargé de conduire Boris chez Pierre Kirillovitch en prenant par un autre escalier.